Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au rugby show.
Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 47e épisode du Rugby Show. Et oui, Clément est toujours porté disparu. Il nous avait annoncé deux semaines de vacances, mais ça fait déjà un mois qu'on n'a pas entendu de nouvelles. Clément, rejoins-nous vite. Le 47e département français, c'est le Lot-et-Garonne. Et oui, Dieu sait que l'eau de la Garonne a coulé sous les ponts toulousains ce week-end. Et elle a même failli déborder, faisant ruisseler avec elle une pluie d'essais au nombre de 10 ce dimanche sur la pelouse du stadium. Et c'est peut-être donc ça, une rivière bouillonnante d'énergie qui a manqué à Clermont-Ferrand ce week-end, qui pourtant était assoiffée d'envie de pouvoir boire à nouveau dans la grande, que dis-je, dans l'immense Challenge Cup. Alors pour débriefer entre autres de cette noyade auvergnate et de cette cascade toulousaine, mes chroniqueurs préférés sont au studio, au chaud comme des mongolitos. Berton et Thomas, comment ça va les gars?
Ça va pas du tout, putain, j'en ai marre de perdre, les gars, j'en ai marre, putain.
Et ouais, la SM qui s'incline 32-31, ça.
Ouais, il fait meilleur d'être supporter toulousain que d'être supporter clermontois ces dernières semaines, ça c'est sûr.
Ouais, ces dernières années.
Ouais, ça va.
Ces dernières années, et malheureusement, j'ai l'impression que c'est parti pour durer, les gars. C'est pas encore tout de suite que les courbes de progression et de performance vont s'inverser.
Inversion des courbes de forme.
Ouais.
Inversion.
Ouais, c'est un match, on va dire. On regarde notre saison. Ce match, il est typique de notre saison. C'est-à-dire, on arrive, on y croit. On est à un point de gagner. Et puis, on s'écroule à la fin. L'arbitre n'a pas aidé, hein, bien sûr. Je tiens à le souligner quand même. Ça, c'est très triste pour Clermont. Franchement, quand Juran marque et quand il n'y a pas laissé de pénalité accordée, on aurait pu prendre 25 points d'avance. 25 points d'avance. Et à la fin, on arrive à mourir à un point.
Bon, allez, Elios, on va parler de quoi aujourd'hui?
Écoute, c'est vrai que c'est la dure loi du rugby, mais nous, on va essayer un peu de ramener un peu de positif dans ce week-end qui a été plein d'éclaircies, mais aussi très terne pour d'autres. On commencera avec le programme que vous commencez un peu à connaître, notre nouveau format depuis deux ou trois épisodes. On commencera par le chiffre du week-end que nous présentera notre ami Victor Berton, suivi du vrai ou chaud habituellement présenté par Thomas. Un magnifique 1 contre 1, un débat sur la finale entre le Leinster et Toulouse juste ensuite. Alors, on l'attend de pied ferme. Je suis chaud. J'ai les arguments taillés au couteau. Ensuite, on enchaînera avec un tu préfères classique de notre ami Berton. Et je vous présenterai tout ça pour finir les pronostics de la semaine avec la chronique du ticket, le moins perdant. Mais sans plus attendre, commençons avec le chiffre du week-end, Trompette.
C'est parti pour le chiffre du jour, les gars. Alors, le chiffre que je vais vous proposer, il est simple, c'est 1 sur 5. Qu'est-ce que veut bien dire ce 1 sur 5?
Aïe. Et on ne s'est pas concerté, mais malheureusement, je pense que je l'ai. Et je pense que ce chiffre, c'est un argument de mon argumentation pour le débat d'après. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas la seule victoire sur les 5 dernières confrontations de Toulouse contre le Leinster?
Eh bien, non.
Ah. C'est le nombre de finales perdues par Toulouse?
Eh bien, non. Mais vous n'êtes pas loin les deux. Hein. Vous n'êtes vraiment pas loin. C'est bouillant là.
C'est quoi?
Est-ce que c'est la note de l'arbitre Clermont Sharks ce week-end?
Non, elle était à zéro.
Ah oui. C'est vrai que je suis un peu trop sympa. Dis-nous, 1 sur 5.
Alors, vous savez que Toulouse a gagné 5 finales. Ça, c'est le 5. Mais il ne s'est imposé qu'une seule fois contre un club étranger en finale. Une seule fois.
Ah oui, la première fois en 96, contre Cardiff.
C'est ça, exactement, contre Cardiff. Contre Cardiff. Donc, c'est quand même un chiffre assez marquant parce que sur les 5 finales, 4 ont été contre des clubs français. C'est assez fou. Ils ont gagné une seule fois contre Cardiff en 96. Après, il y a eu une défaite contre les Wasps avec la célèbre poitronnade en 2004. Ouais, et après, la défaite en 2008, 16-13 contre le Munster, qui lui, en fait, que Toulouse a perdu en fait, au bout du suspense un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match, mais c'était un match très âpre. Et donc, contre des Irlandais, la dernière défaite en finale, c'était contre des Irlandais, pas le Leinster, l'ogre que la bête noire de Toulouse, mais contre le Munster, l'ennemi juré du Leinster.
Voilà, ok, c'est intéressant. C'est... Ouais, c'est fou qu'ils ont gagné autant de titres contre entre guillemets des équipes qu'ils connaissaient et qu'ils avaient l'habitude d'affronter en top 14. Donc tu dis qu'ils partent pas forcément du coup dans les meilleurs auspices. Et qui ne sont pas forcément favoris sur un match contre des Anglo-Saxons.
Peut-être que Toulouse fait plus peur en France qu'à l'étranger. En France, ils ont l'habitude de martyriser dans le top 14, etc. Peut-être que les équipes européennes, elles arrivent avec plus d'insouciance, plus de fraîcheur, je ne sais pas.
Ça, c'est sûr. Hein. Moi, Thomas, je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand tu prends le quart de finale, c'est le quart de finale contre le Racing. Tu as l'impression que le Racing, ils savaient directement à l'avance qu'ils allaient prendre une branlée et ils n'ont pas vraiment cru en leur chance, comme tu dis, tellement qu'ils se faisaient dominer en top 14. Et du coup, il y a peut-être un peu de ça qui joue. Après, aussi, tu étais surpris par un système de jeu particulier. Et c'est aussi très souvent, les finales, elles sont à Londres, à Cardiff ou en Irlande. Elles sont quand même relativement peu souvent chez nous. Donc, peut-être que les fois qu'on a perdu contre le Munster ou d'autres équipes comme les Wasps, c'était chez eux. Peut-être ça aussi.
Ouais, c'est à vérifier, mais est-ce que Toulouse ne réussit qu'à gagner contre des équipes françaises, que ce soit en top 14 ou en challenge ou en Champions Cup, je veux dire, aujourd'hui. Bon, ça c'est à définir, mais ça nous emmène peut-être vers le débat du jour. On se lance, les gars ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à aller à la mort ? Parce que là, il y a un contre un, la finale temps espéré.
Attends, j'ai une petite info pour toi, juste avant de...
T'es trop pressé.
Juste avant de rentrer dans ce débat, sois pas trop pressé, il y a un petit viré ouchot qui nous attend et on vous y emmène tout de suite. Allez, trompette. Bon les gars, bien malin celui qui saura si cette réponse, elle est vraie ou fausse. Je vais vous la poser tout de suite sans plus attendre. Le Leinster n'a jamais gagné une Coupe d'Europe après avoir croisé le chemin de Toulouse dans la compétition. Est-ce que c'est vrai ou faux ?
Je pense que le Leinster a perdu deux fois déjà contre La Rochelle en battant Toulouse.
Ouais.
Donc, déjà, je dirais que c'est vrai que le Leinster n'a jamais gagné une compétition en ayant battu Toulouse. Je dirais que c'est vrai.
Bah, déjà, il faut savoir, en phase finale, ils ont joué trois fois. Et ensuite, c'est vrai qu'ils ont perdu contre La Rochelle. Donc, moi, je dirais que c'est vrai aussi sur leurs quatre titres. Ils n'ont jamais rencontré le Stade Toulousain quand ils ont gagné les quatre fois les quatre Coupes d'Europe.
Bravo les gars, effectivement, on parlait du Leinster qui est la bête noire de Toulouse, mais il se trouve que c'est peut-être l'inverse. Toulouse, même s'ils se font battre par le Leinster, au final, ils les empêchent de gagner leur compétition d'une manière ou d'une autre à chaque fois qu'il y a une rencontre entre les deux. En 2022, en 2023, tu l'avais dit Victor, ils ont perdu en demi-finale Toulouse contre le Leinster qui était après allé échouer en finale. En 2019, c'était la même histoire, Toulouse perd en demi et le Leinster va s'incliner en finale. Et ensuite, les autres finales que le Leinster avait gagnées, c'est-à-dire qui sont au nombre de 4, Toulouse n'avait pas croisé le chemin de l'ogre irlandais pendant la compétition.
Ouais, d'ailleurs, ça fait depuis 2018 qu'ils n'ont pas gagné, donc il faudrait qu'ils se bougent un peu le cul. Hein.
Ouais, là, mais
coup,
après,
la première fois.
Le Leinster a quand même gagné 4 éditions depuis 2009. Alors que Toulouse, on dit qu'ils ont gagné, ils ont 5 étoiles, mais la première, elle était en 96, etc. Au final, pendant que Toulouse en a gagné 2, le Leinster en a gagné 4.
Ouais, c'est vrai. Hein. 96, quand même, la dernière victoire de Toulouse contre un club étranger, ça commence à remonter.
En finale.
Ouais. En finale, ouais. C'est quand même...
Ouais, du coup, Thomas, tu confirmes que si le Leinster s'impose... contre Toulouse en finale, ce sera du coup la première fois qu'ils les battent et qu'ils gagnent la coupe.
Ça serait
les événements se produisent en même temps.
ça serait du coup une grande première. Mais bon, après, là, on imagine que c'est presque du 50-50 hein, quand on regarde un petit peu le parcours du Leinster dans la compétition. Eux, ils ont battu leur bête noire pour le coup, qui était La Rochelle, qui les faisait tomber deux fois d'affilée en finale et ils les ont d'ailleurs atomisés en huitième. Et puis après, c'était presque une balade leur parcours jusqu'à la finale, qui était maîtrisé. Donc franchement, ils arrivent plein d'armes. La demi-finale, vous en avez pensé quoi un peu de leur demi-finale contre Northampton?
Honnêtement, franchement, c'était hyper intéressant dans le sens où tu as l'impression qu'à la mi-temps, ils allaient leur en mettre 50, tellement ils dominaient. Ouais. Enfin, voilà. Et on a vu une équipe de Northampton qui, en fait, aurait dû gagner, quoi, à la fin, qui s'est réveillée, qui avait fermé un peu le jeu et qui a repris un peu sur les basiques, un peu les prendre devant, les avant. Et puis ils ont failli y arriver s'ils faisaient pas un peu la petite bourde à la fin aussi, enfin à se débarrasser un petit peu du ballon bêtement.
Après Northampton c'était quand même les premiers, tu vois la différence des Harlequins. Toulouse ils ont réussi à les battre relativement facile puisque les Harlequins je crois que c'est des 5e, 6e ou milieu de classement dans leur classement anglais. Northampton ils sont quand même largement premiers je crois en première chip anglaise, donc c'était quand même un autre poisson. Mais ouais, moi j'étais vachement étonné. Et on y reviendra après dans le débat, mais je pense que du coup, le Leinster, ça montre un petit signe de fébrilité. Je pense qu'ils ont contrôlé le match depuis le début et qu'ils ne sont pas forcément fait trop peur. Et que s'il avait fallu réaccélérer à un moment, ils auraient pu réaccélérer. Mais ça montre quand même qu'ils ne gagnent pas forcément tous les matchs hyper facilement. Et je pense que c'est plutôt de bonne augure contre Toulouse. Hein.
Ouais, un peu à l'image de Toulouse finalement, qui s'est relâché en deuxième mi-temps et qui a failli voir les Harlequins revenir. Ils ont peut-être mis le coup d'accélérateur plus tôt. Il y a eu le grattage d'Aldeguerri sur les 5 mètres. Il y a eu le carton jaune qui les ont fait reprendre un peu, recontrôler ce match en sortant, on va dire, de la zone rouge. Mais au final, deux équipes ultra dominatrices qui ont failli perdre, quoi.
Ben, on les a vus presque douter dans ces temps faibles. Souvent, on dit la force des grandes équipes, c'est de savoir contrôler ces temps faibles. Et là, on parle des deux géants quand même européens. Et les deux ont douté à un moment donné dans le match. Mais les deux ont quand même réussi à gagner.
Voilà, c'est ça. Moi, ces deux équipes-là, les gars, je sais pas vous, mais moi, elles me font penser un peu aux All Blacks à l'époque où vous avez vraiment leur domination sans appel dans les années 2010. T'as l'impression que même quand il y a une équipe qui rivalise un petit peu avec eux et qui les fait douter, les gars, ils sont quand même en mesure, ils ont tellement confiance en leur collectif qu'ils sont en mesure de réaccélérer et de remettre le petit coup de rein qu'il faut à la fin pour remporter le match. Honnêtement, c'est vraiment deux équipes qui m'impressionnent et j'ai l'impression qu'elles sont sur un même pied d'égalité. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant, les gars, à la fin de cette compétition. Victor, je sais que tout à l'heure, tu étais super impatient et super pressé de lancer ce débat.
Allons-y.
Tu vas pouvoir le lancer juste après les trompettes.
Et les gars, c'est parti pour ce débat inévitable. On a parlé de cette finale inévitable dans les épisodes précédents. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, je veux vos plus belles têtes de « je vais te mettre à bord », comme ça. Allez, hein, c'est Elios contre Thomas. Ils se détestent dans la vraie vie, ils se mordent, ils se chamaillent tous les jours, tout le temps. C'est hallucinant. Là, c'est le débat de l'année. Alors les gars, c'est parti. C'est les géants du rugby européen, le Stade Toulousain, 5 titres, et le Leinster, 4, qui vont s'affronter pour la première fois en finale de la compétition le 25 mai au Tottenham Stadium de Londres. Leinster, la bête noire de Toulouse, a l'occasion d'égaliser au palmarès européen. Pour rappel, Leinster, c'est 4 titres pour sa 8e finale dans son histoire, dont 3 qui sont d'affilée. Toulouse, lui, en revanche, c'est 5 victoires en 7 finales, qualifiées maintenant pour la 8e finale. Et est-ce qu'ils veulent pas laisser revenir, bien sûr, sa bête noire contre qui ils se sont fait éliminer 2 fois en demi-finale les 2 dernières années? Alors, qui va gagner? Là, c'est la question que je vous pose. Et donc, du coup, je crois qu'Elios, toi, tu vas prôner Leinster. Et toi, Thomas, Toulouse. Alors c'est parti, je vais vous laisser 30 secondes de pur bonheur parce que ce débat, on l'a attendu depuis un moment. Elios contre Thomas, allez, qui commence, pile ou face? Pile ou face? Vas-y Lucien, fais-nous pile ou face, vous l'entendez pas.
Allez Elios, je t'en prie, vas-y.
On a Lucien, le stagiaire en backstage. Ah. Allez, je commence. Je commence avec le Leinster. Thomas, c'est ça ?
Vas-y, tu commences avec le Leinster et je te termine avec Toulouse.
Allez, 3, 2, 1, top chrono.
Alors, c'est très simple, les gars. C'est le Leinster, l'équipe d'Irlande, contre le Stade Toulousain, l'équipe de France. Qui a gagné la dernière confrontation ? C'est bien évidemment l'Irlande. Donc, je vois une issue exactement similaire pour cette finale de Champions Cup. Et mon deuxième argument, il va être très factuel, il va être statistique. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Sur les 5 dernières rencontres entre ces deux équipes, le Leinster a gagné à 4 reprises et Toulouse, sur sa seule victoire, n'a gagné que d'un point, alors qu'ils ont essuyé des grandes branlées sur les autres matchs. Donc, je vois un avantage psychologique et stratégique net pour les Leinstermen.
Top à la vachette.
T'es mort.
Bel argument. Mais Thomas, on compte sur toi parce que bon, les Irlandais, on les déteste.
Ouais. Bien après, sûr, moi, je ne veux pas influencer l'arbitre, mais moi, ça restera très statistique, très factuel. Donc, je ne vois pas comment on peut dire que j'ai
ouais.
pas.
Voilà. Mais bon. Thomas, c'est parti pour 3, 2, 1, top chrono.
Le Stade Toulousain s'avance dans cette finale avec un avantage psychologique. Ils s'avancent à ce stade de la compétition où ils n'ont pas perdu depuis 2008, pendant que le Leinster a perdu ses 3 dernières finales dans les 5 dernières années. La Champions Cup, c'est la priorité de Toulouse cette année, et quand on a un objectif en tête avec un effectif comme celui-ci, au complet, je peux vous dire qu'on est favori contre n'importe quelle équipe. Toulouse va décrocher une 6e étoile.
C'est beau, 26 secondes pour un bel argumentaire, bien placé, sans hésitation. Attention.
T'arrives même à finir avant les 30 secondes, ça c'est fort ça.
Ouais. Ah, bah, il a l'habitude.
Ouais, il a je voulais pas en venir là. Et Victor, avec ta classe qui t'est propre, il a mis les deux pieds dans le plat. Non, mais Thomas, honnêtement, les arguments assez convaincants. Après, moi, le petit bémol que je t'accorderai, c'est que tu viens déterrer les archives du passé. Bon, en 2008, ça fait quand même vieux. Et j'ai pas trouvé que tu avais un ton très convaincant. Je te sentais pas habité par tes idées.
Mmh. Ouais, mais je pense que la bande à Toto, elle est habitée. Et ça, je peux te le dire. elle est habitée, on l'a vu. Elle, mais le mec, il est au top de sa forme. T'as tous les joueurs qui sont revenus. Ramos, là, qui était sur, même Ramos, il était sur le banc, tranquille, il a soufflé un peu. Je peux te dire que le 25 mai, il n'en manquera pas un seul. Même Blair qui s'est fait refaire le pif.
Ouais. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que si on regarde les derniers matchs de la saison, on voit Leinster, comme vous dites, en demi-finale, vraiment encore plus douté que Toulouse.
Ouais.
Après, est-ce que Northampton, qui était une équipe plutôt similaire au Leinster, c'est-à-dire très physique devant, pas forcément très joueuse, elle a fait douter, on va dire, l'équipe hyper bien huilée du Leinster qui a un jeu très millimétré mais très carré, très, très programmé, alors que Toulouse, c'est jeu dans le désordre et eux ont douté un petit peu, mais contre une équipe qui était pareille, qui joue dans le désordre à fond. On a vu une équipe ultra offensive quand même des Harlequins. Et en fait, c'est des oppositions vraiment de style, les deux équipes. Et donc, c'est qui va réussir à tenir peut-être un peu le ballon, parce que voilà, est-ce que, on va dire, le temps peut aussi compter beaucoup. Imaginez, à Londres, il fait une grosse pluie, ça sera pas du tout à l'avantage de Toulouse.
Je sais pas, c'est deux équipes joueuses. Hein, le Leinster, ils sont quand même là à faire des grosses combis bien huilées. Je peux te dire que de la pluie, ça peut mettre des grains de sable dans ces rouages qui sont bien huilés. Et Toulouse devant, franchement, c'est pas les derniers. Hein. Au contraire, c'est pour ça qu'ils arrivent à si bien jouer derrière. C'est parce que devant, ils sont tellement conquérants. Donc je pense que là, franchement, cette année, ils ont les armes. Hein. Au moins ça.
Moi, j'ai l'impression qu'on se dit la même chose tous les ans, que ce soit entre le France-Angleterre ou les Toulouse-Leinster. On se dit, ouais, Toulouse, cette année, ça envoie du jeu dans tous les sens. Ça marque 5, 6, 7 essais, même 40 points à chaque match. Et on a toujours le petit espoir que le jeu, la fantaisie prime un peu sur les attaques bien huilées et tout ce qui est un jeu très carré, très, très schématisé des Leinstermen. À chaque fois, on a de l'espoir et au final… On ne trouve pratiquement jamais la faille, à part dans des matchs complètement fous comme à la finale où La Rochelle a réussi à faire une remontada. Mais à part des scénarios complètement incroyables, c'est toujours malheureusement la propreté et la clinicité du Leinster qui l'emporte. Donc moi, malheureusement, même si j'aimerais de tout cœur que Toulouse l'emporte, j'ai l'impression que le Leinster, ils peuvent s'adapter stratégiquement à n'importe quelle équipe quels que soient les styles de jeu.
Mais moi, en fait, c'est que Leicester a souvent dominé des équipes très joueuses, on va dire. Et par contre, quand ils se sont retrouvés face à des La Rochelle en finale, qui est une équipe, bah, pareil, très schématisée, très, très programmée, très dans le respect d'un plan de jeu, là, ils se sont mis à douter parce que c'était vraiment un défi physique. Et au défi physique, voilà. Après, ce que tu dis aussi, je les trouve très, très conquérants aussi, Toulouse, par rapport peut-être aux deux dernières années. Enfin, avec le poids comme Méafou, comme Cro, qui fait 30 plaquages dans le match. Enfin, on voit quand même des vrais guerriers sur le terrain, pas simplement que des fantasques comme Paul Coste ou autre, enfin, ou Dupont, mais vraiment aussi une équipe très dominante devant. Et ça, c'est quand même le gros point positif pour Toulouse.
Et moi, je pense un autre point positif assez important à notifier pour Toulouse, c'est que d'habitude, ils sont toujours un peu ric-rac sur la course au top 6. Du coup, ils doivent jouer les deux championnats parallèlement. Et donc, les mecs, ils arrivent en finale de la Champions Cup ou en demi-finale de la Champions Cup, souvent assez éreintés. Et là, c'est l'inverse. Là, Toulouse, ils sont deuxièmes. Ils ont une fin de championnat assez facile. Ils savent qu'ils vont pouvoir se qualifier. Donc, ils vont pouvoir faire un petit peu tourner. En plus, on a vu qu'avec leur équipe bis, voire leur équipe C, ils étaient capables de gagner des matchs. Donc, toi, la finale dans 3 semaines, là, pour une fois, Toulouse, ils vont pouvoir gérer leur effectif au mieux pour arriver au pic de leur forme. Et moi, je pense que c'est une des seules années où ils ont ce calendrier-là. Donc, c'est ça aussi la petite clé qui peut faire la différence. On se parle souvent des calendriers qui ne sont pas du tout chargés de la même façon des deux côtés et qui donnent un avantage au Leinster. Là, pour le coup, je pense que c'est 1-1, balle au centre et que n'importe qui peut gagner. Et d'ailleurs, quand tu regardes les pronostics, les cotes pour les bookmakers ou les fans de pronos, c'est 50-50. Hein. Il y a autant de chances qu'il gagne que l'autre. Ouais, c'est fou. Mais en tout cas, ça va être une finale de dingue. On a hâte de la vivre, on a hâte de la débriefer. Et moi, les gars, je vous propose qu'on passe directement à la prochaine chronique de cet épisode. La nouvelle chronique préférée de tous nos auditeurs, c'est la chronique de Victor Berton, la « Tu préfères ». Je vous demande les trompettes.
C'est parti pour votre chronique vraiment préférée. La préférée des préférés, c'est ma chronique, à moi, qu'à moi. c'est la tu préfères. Maintenant, c'est programmé. Je vais commencer par toi, Elios. Elios, toi, fantasque du rugby qui aime être un peu nonchalant, un peu arrogant, tu préfères être le nonchalant Ntamack ou l'arrogant Smith?
Ah, alors celle-là, elle est écrite. Et en plus, c'est vrai que je suis un petit peu arrogant sur le terrain. C'est vrai que j'aime bien brancher mon vis-à-vis. Je ne suis jamais violent, je ne mets jamais de fourchette ou de doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Je reste uniquement vocal, mais ça marche très bien. Et j'ai aussi une autre particularité dans mon jeu, c'est que j'ai du sang, j'ai de l'ADN fidjienne. Et Marcus Smith, il est addict au pas de loi, foncièrement, originellement fidjien. Donc, sans hésiter, je dirais Marcus Smith. D'ailleurs, sur la demi-finale, il touche, je crois, 30 ballons et il fait 100 mètres balle en main, alors que Ntamack, à la côté qui est plus sobre, touche la moitié des ballons et fait deux fois moins de mètres ballon en main. Donc, je préfère largement le style de Marcus Smith. En plus, c'est vraiment une vraie tête de pute, une vraie tête de con. Donc, bon, honnêtement, j'adore, je m'identifie à 100%. À ce joueur.
Après, chacun joue avec son style, chacun joue avec son numéro 9 aussi, hein, parce que quand tu as un 9 dynamiteur comme Dupont, tu n'as pas intérêt à foutre trop le bordel, sinon le 12, il ne va pas toucher une gonfle du match. Mais quand tu as un Danny Kerr avant Marcus Smith, bah, faut bien aller mettre de la folie, parce que je peux te dire que Danny Kerr, du haut de ses 46 ans.
Moi, ça reste un grand neuf. Danny Kerr, j'adore. J'aimerais trop faire une grosse bringue avec lui. Franchement, je pense qu'en troisième mi-temps, ça doit être un des plus fous que tu puisses rencontrer.
Ouais, c'est sûr. Ils ont quelques belles gloires, les Anglais, mais là, avec Mitchell maintenant qui arrive derrière, on a plus grand chose à leur envier. Ouais, mais du coup, pour répondre à ta question, ça sera Marcus Smith. Et d'ailleurs, j'ai hâte de le voir sur les pelouses françaises, voire corréziennes de notre championnat.
Ah, ça, ouais. Il a refusé quand même de venir au Racing Métro, mais il a dit en après-match qu'une carrière de joueur était assez courte et qu'il rêverait un jour de jouer en top 14. Donc, Marcus, écoute-moi, viens à Clermont, on n'a pas de 10, il ne sait même pas mettre une pénalité à 30 mètres face au poteau, vélo.
Est-ce que tu as un petit tu préfères pour notre collègue Thomas là?
Et bien sûr que j'ai un tu préfères pour c'est parti pour toi Thomas qui est un adepte des déformations physiques dont je ne citerai pas l'endroit.
Hein, les excroissances.
Tu préfères avoir le nez de King Horn à la fin du match ou le bras de Rory Cocotte?
Ah ouais, oh, le nez de King Horn, je peux te dire, les gars, il était complètement en Z. Le gars, il se blesse sur le dernier plaquage quand même. C'était la 80e minute passée et ça, ils avaient gagné le match, mais il est quand même allé s'envoyer. Hein. Ça, c'est un charbonneur. Ouais. Moi, après le bras de Rory Cocotte, je sais pas, ça fait un peu. Fan de masturbation, ouais. Tu vois, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que je préférerais faire un peu, tu vois, le guerrier qui s'est envoyé jusqu'au bout. Au moins, le nez, il est réparable. Le mec, son bras, il va se le traîner toute sa vie. Hein. Son bras difforme, ouais. Là.
Et le nez, ah ouais. Le nez est réparable. Et moi, ce qui m'a un peu trouvé le cul interloqué sur Rugby Rama tout à l'heure, c'est qu'il se posait la question, les journalistes de Rugby Rama, de savoir s'il allait jouer contre le Stade Français samedi. Et le mec, il a le nez en équerre, il a le nez qui part à l'ouest, se pose la question de s'il va jouer samedi, mais il faut arrêter les conneries.
Non, mais c'est un truc de dingue, il a une virgule, mais et vraiment, c'est trop marrant, parce qu'ils avaient fait un montage où tu avais Mike Tindall et King Horn, et ils ont chacun la virgule d'un côté et de l'autre, et putain, c'est quand même hallucinant, quoi. Oh, j'aimerais pas être à sa place, hein.
Ouais, d'après les rumeurs, la virgule, le logo emblématique de Nike, ouais. A été inspiré par King Horn d'ailleurs.
Ouais.
C'est pas possible. Mais
non, il a un procès au cul pour utilisation de propriété intellectuelle.
Non, non, mais il doit respirer par l'œil maintenant, tu vois.
Merci Victor pour ces tu préfères. On a hâte évidemment de la finale de le 25 mai, mais le week-end prochain, c'est une journée de top 14. Et Elios, et oui. Évidemment, qui dit journée de top 14 dit pronostic. Je vais laisser Elios nous présenter ses plus beaux pronostics pour le week-end prochain, juste après des trompettes.
Et oui, salut les gars, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour clôturer cet épisode avec cette magnifique chronique du ticket le plus perdant. J'ai mal commencé ce nouveau format en vous prédisant la victoire de l'essai de Teddy Thomas, mais cette fois-ci, je vais vous donner quelques petites actualisations sur mes pronos de la semaine dernière. Toulouse est bel et bien en finale et Clermont ne l'est pas. Donc je rebondis un petit peu avec un tout petit peu de succès. Je vais maintenant passer à la prochaine journée de Top 14 parce que oui, on vous le rappelle, la finale de Champions Cup se déroule fin mai et ne sera que dans 3 semaines. Bon, je ne vais pas vous emmerder, les gars. En ouverture de cette journée française, il y a Van Brive, mais j'imagine que vous ne saviez même pas que Van était en Pro D2. Donc, on va se concentrer sur le retour du top 14. Et moi, cette semaine, les gars, malheureusement, je ne vois pas beaucoup de surprises parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont un petit peu gagnés d'avance. La seule surprise que je vois cette semaine, c'est le grand MHR avec tous ces Sud-Africains, tous ces mercenaires, se sauver un peu le cul, faire plaisir à Moed Altrad qui est sous perfusion depuis 3 mois. Et les gars, je vois bien moi le MHR aller s'imposer à Pierre Fabre, à Castres, qui n'est plus du tout un château imprenable étant donné qu'ils ont perdu leurs 2 ou 3 derniers matchs à domicile. Je vois bien voilà Montpellier enfoncer Bayonne et envoyer Bayonne vers le match de barrage à la fin de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la surprise selon moi de ce week-end.
Moi, franchement, je vois ça compliqué. Et puis, en plus, j'espère tellement que Clermont va se sauver facilement. Et ma chère, c'est les favoris pour être 13e maintenant. Ouais, à Castres qui joue encore la qualif dans l'espoir, qui est chez lui, bon. Qui reçoit le dernier. Ah, bah, Castres, ils sont toujours là au classement, enfin, un peu dans le ventre mou, mais ils sont quand même 8e, 50 points, le 6e est à 55, et ils peuvent, en cas de victoire, même bonifier, repasser 6e, on sait jamais. Bon, moi, je le vois quand même compliqué, et bon, Castres, ça, c'est pas une forteresse imprenable cette année, parce qu'ils ont même perdu contre Clermont, mais ça reste quand même une équipe
quoi.
À domicile. Ouais,
même contre Clermont.
Même contre nous, ouais. Par contre, je ne sais pas, par exemple, le Stade français qui se déplace à Toulouse, qui va jouer la première place, Toulouse qui va peut-être faire un petit peu tourner pour s'assurer de ne pas blesser ses cadres. Bon, ça peut être aussi une surprise. Clermont qui va jouer sa saison à Perpignan, un peu un concurrent direct pour se qualifier, ça peut être une surprise.
attends, je te coupe directement. Comment est-ce que tu mets Clermont et Perpignan dans le même bateau, comme quand vous avez... Et les mêmes objectifs, il y a 6 points d'écart quand même entre vous. Il y a 6 points d'écart. Vous avez eu de la chance de vous sauver de la zone de relégable la semaine dernière.
Notre objectif, c'est le top 6. Eux, leur objectif, c'est d'éviter la 13e place. Mais au final, ce qu'ils vont faire, c'est le top 6 et nous, on va.
Ça va être inversé.
On va juste éviter la 13e place. Oui.
Ouais, mais je veux dire, si tu gagnes un peu contre Perpignan, tu reviens juste aux portes du top 6 pour Clermont. Ils jouent après deux autres matchs à domicile. Ils vont jouer contre Toulon, qui est le 6e, pour jouer peut-être aussi une qualif. On ne sait jamais. Clermont, ça reste tout de même. On a vu quand même une équipe faire un sacré match quand même contre une équipe des Charges qui est composée de la moitié des équipes d'Afrique du Sud. Moi, je pense que Clermont peut faire la surprise aussi à Perpignan. Et Perpignan, ça reste Perpignan, si vous voulez. Ça reste Perpignan. Ils sont capables de perdre à domicile.
Ils sont capables de perdre à domicile. Mais bon, franchement, j'ai hâte du prochain épisode du Rugby Show pour qu'on puisse débriefer ses pronostics et qu'Elios continue sur sa lancée de 0.T.
J'y crois. À fond. Bon.
Merci les gars d'avoir été là pour cet épisode du Rugby Show. On a hâte du week-end de Top 14 le week-end prochain. On a hâte de cette finale Toulouse-Leinster.
On a aussi hâte de vous présenter notre nouveau stagiaire. Il est en train de il s'appelle Lucien. Il est très beau, il est grand et fort et il est en train de présenter sa vidéo de préparation un fervent fan de Villeneuve d'Ascq et aussi de La Rochelle.
Voilà. Oui, la famille du Rugby Show s'agrandit. Vous saurez tout en nous suivant sur les réseaux. On fera des petites vidéos de présentation avec le stagiaire très prochainement. En attendant,
restez connectés.
Et n'oubliez jamais, surtout, le Rugby Show. C'est chaud, gros.
Ouais, le stagiaire, il est encore plus chaud, gros.
C'est bouillard, il est bouillard.
Il vient de faire des cafés, c'est chaud.
Il m'a brûlé avec son café.
Rugby Show, des débats et des pronos.
Alain Schumann, il est chaud.
Rugby Show.